Le livre des juges. Alors, c'est un texte que vous connaissez bien, je pense. Vous avez certainement, pour en tout cas les plus anciens, entendu prêcher bien des fois sur ce texte, le chapitre 7. On ne va pas lire le chapitre 7, on y reviendra morceau par morceau, ce serait un peu trop long. Mais Juges chapitre 7, c'est l'histoire de Gédéon, de ce combat qui a été mené d'une manière très particulière, mais aussi de cette grande victoire que Dieu a opérée pour son peuple. Amen. Alors, je vais commencer par, on va dire, le contexte et le négatif, parce que ce contexte est un peu négatif dans cette période des juges, où ce qui ressort de cette période, c'est que le peuple faisait ce qui lui semblait bon, particulièrement ce qui déplaisait à l'Éternel, et ça a été une période pour le peuple d'Israël où, quand les juges étaient là et qu'ils exerçaient la fonction que l'Éternel leur avait donnée, ça se passait bien, mais dès que le juge était mort et qu'il partait, il y avait ces périodes de difficultés. Alors c'est un peu étonnant parce qu'il y a des périodes où il est écrit, le peuple était dans le repos. Voilà. Et on va le lire au chapitre 6 et même la fin du chapitre 5. Il nous est dit ceci, le pays fut en repos pendant 40 ans. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, des montagnes et dans les cavernes et les rochers fortifiés. Quand Israël l'avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Écoutez bien ceci. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Je m'arrête là. C'est pour le contexte. Gédéon, il vient après Josué, qui vient après Moïse. Moïse est celui qui a fait sortir le peuple d'Israël, de l'Égypte, pardon, qui a opéré par la main de l'Éternel une grande délivrance, traverser la mer Rouge, et puis ils se sont engagés en traversant le Jourdain dans cette marche longue du désert, et arrivé au bout de ces 40 années, Gédéon prend la relève pour faire entrer le peuple dans le pays promis. Mais dans ce pays promis, vous le savez, il y a des combats, il y a des peuples à chasser, il y a des places à prendre, et il y a ces moments où le peuple est en difficulté, et donc c'est cette période des juges qui va conduire le peuple, Gédéon étant un des juges, avant l'arrivée du premier roi, Saül. Vous savez, le peuple a demandé un roi comme toutes les nations, voilà. Et Dieu a donné, en avertissant. Et avant donc le roi, il y a eu Gédéon. Gédéon est dans ce contexte où le peuple est idolâtre. Il y a les Baals, l'Astarté, mais on a lu qu'il était pendant 40 ans dans le repos. Je crois qu'il y a des repos qui sont bons et il y a des repos qui sont dangereux. Et c'est dans ces moments de repos où le Seigneur nous dit « Sois attentif et veille, veillez et priez ». Parce que ces moments de repos où on a l'impression que tout est calme peuvent nous conduire à nous endormir et le sommeil nous éloigne de la présence de Dieu. J'ai été heureux du texte qui a été lu tout à l'heure, en début de culte, Matthieu 11, 28, il nous est dit, c'est Jésus qui parle, hein, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, le vrai repos, il est en Christ et en Christ seulement. » Mais Jésus dira, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. » Le repos de Dieu, le repos de Jésus, ce n'est pas un repos où on ne fait rien, où on est inactif, mais c'est un repos dans lequel il faut se charger d'un joug, qui est certes doux, mais le joug, il sert à nous diriger et à nous rassembler. Et le fardeau qui est léger, celui de Christ, c'est celui de recevoir les instructions. Et le repos de Jésus, c'est aussi de suivre sa parole et de vivre en conformité avec sa parole. Donc le repos inactif nous conduit loin de Dieu, mais le repos en Christ nous amène toujours plus près de Dieu. Amen, hein ? Et donc, ce peuple est entouré aussi d'ennemis. Ils sont cités, Madian, Amalek et les fils de l'Orient. C'est significatif. Madian, ça veut dire lutte, dispute. On aura toujours ces adversaires-là. Toujours. Et il faudra toujours combattre. La Bible nous dit qu'il y a un bon combat à mener, le bon combat de la foi. Le bon combat, ça ne veut pas dire que c'est beau, mais ça veut dire le juste combat. Le juste combat, celui-là, il est inévitable, il faudra toujours le mener. Madian, lutte, dispute. Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü, et ça nous parle de la chair. Et les plaisirs de la chair, les désirs de la chair, la Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et ce combat, il faudra toujours le mener. Et le seul qui peut nous faire remporter la victoire, c'est Jésus-Christ, par son esprit et par sa parole. Et il y a les fils de l'Orient. Alors les fils de l'Orient, voyez-vous, ce sont les fils qui sont nés des concubines d'Abraham. Ce n'était pas la volonté de Dieu que ces hommes aient des concubines. Et c'était des erreurs, c'était une erreur. Et voyez, toutes nos erreurs, tous nos péchés qui ne sont pas portés à la croix, qui ne sont pas voués ni abandonnés, un jour ou l'autre, viendront nous faire la guerre. On a besoin devant le Seigneur d'être, comme on dit, clean, c'est-à-dire que tout doit être mis à nu, tout doit être crucifié, tout doit être réglé. Parce qu'il y a des choses qu'on peut enfouir, mais un jour ou l'autre, ces choses, elles ressortent. Que le Seigneur nous garde. Ça, c'est le contexte, je vais dire, négatif. Hein, et on va le mettre de côté. On va aller vers le positif. Dieu veut sauver son peuple. Et voyez-vous, ce qui a pu permettre à Dieu d'intervenir, c'est le cri. Il nous est dit, on l'a lu, Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. C'est le cri vers Dieu dans sa souffrance, dans la conscience, la prise de conscience de son malheur, c'est le cri vers Dieu qui a permis à Dieu de pouvoir intervenir. Et ça, c'est important. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Pas de temps en temps, mais toujours. Toujours. Amen. Voilà notre sécurité, voilà notre secours. Et de la même manière que Dieu a entendu le cri de son peuple en Égypte, et la Bible nous dit qu'il est descendu pour le délivrer, il descendra toujours pour nous délivrer quand nous crions à lui. Amen. Il faut qu'on en soit convaincu. Alléluia, hein ? Alors, il envoie un ange qui va dire à Gédéon, « Dieu est avec toi, vaillant héros. » Waouh ! Vaillant héros. Dieu est avec toi. Et je me souviens de l'apôtre Paul qui dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Mes frères et sœurs, ne faisons pas de la parole de Dieu des formules, mais croyons que c'est la vérité, que cette parole, elle est vivante et qu'elle s'applique toujours quand on y place notre foi et notre confiance. Dieu est avec toi. Voilà. Et il va lui dire donc, va avec la force que tu as. D'abord, je reviens un peu sur le vaillant héros. Ce n'est pas du tout ce que Gédéon voyait de lui. Hein. Lui, il se considérait comme le plus petit de sa famille et de la famille la plus pauvre de Manassé. Oui, mais il y a ce que nous, on voit, il y a ce que nous, on perçoit, il y a notre réalité, et puis il y a la réalité de Dieu. Voilà. Il y a ce que Dieu voit. Et ce que Dieu voit au moment où il nous parle, mais ce qu'il voit de ce qu'il va faire avec nous. Et ça appartient à Dieu. Et on a besoin de se tenir dans sa présence, de se tenir auprès de lui pour avoir la révélation. Non pas de ce que je pense, de ce que j'imagine, Parce que vous savez, on est tous de la même nature. Si on se met à penser par nous-mêmes, si on se met à imaginer, la Bible dit que nos voies sont éloignées au possible des voies de Dieu. Voilà. Ce qui est important, ce n'est pas ma réalité, mais c'est la réalité de Dieu. Et la réalité de Dieu, elle est claire, elle est parfaite. La volonté de Dieu, elle est dans sa parole. Amen. Et on a besoin qu'il nous la révèle. Alors, va avec la force que tu as, évidemment, pas avec la tienne, mais puisque Dieu est avec toi, tu es devenu fort. Et dans ta faiblesse, crois-le, Dieu est avec toi et tu seras fort. Et Paul dira, c'est quand je suis faible, quand je laisse Dieu rentrer en moi, vivre en moi, c'est là que je suis fort. Amen. Et donc, il y a une certitude, Dieu est avec nous, alors je suis fort, par sa force. Amen. Hein? Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, dira Paul à Timothée. Et on est tous conscients qu'en nous, il n'y a pas de force. Voilà. Alors, je vais aller un peu dans le processus qui amène à la victoire. Parce qu'on est tous conscients qu'il y a des combats, mais soyons aussi conscients qu'en Christ, nous avons déjà la victoire. Jésus, sur la croix, a prononcé cette chose extraordinaire, ces paroles extraordinaires, « Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est achevé, parfaitement achevé. » Mais on est obligé de reconnaître qu'on n'a pas encore tout vécu. Tout est accompli pour mon salut. Je suis sauvé. Amen. Mais il y a des choses que je dois encore vivre, saisir par la foi. Et je suis convaincu que tout ce que je demande, tant pour la guérison, tant pour le salut, tant pour les choses dont j'ai besoin spirituellement parlant, et même pour ma vie, Dieu ne doit pas les faire, elles sont déjà faites. Par la foi, saisissons-nous de toutes les promesses que Dieu a prononcées. Amen. Hein? Alors, Gédéon, il se trouve devant l'ange, il comprend qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors, il dit bien, il revient bien un peu sur le passé. Hein? Il va dire, Gédéon, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Bon, elles sont arrivées, elles sont passées, mais maintenant, Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Amen. Maintenant, Gédéon, toi tu regardes derrière, mais moi je te dis de regarder devant et regarde ce qui va se passer. Je suis avec toi, je suis avec vous, et la victoire, elle est déjà acquise. Alors, Gédéon va découvrir de quelle manière cette victoire va s'accomplir. Mais pour Dieu c'est fait. Pour Dieu c'est établi. Voilà. Et la Bible dit que Dieu nous a créés pour que nous pratiquions les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Et nous devons croire, vraiment, que Dieu a préparé des choses extraordinaires, que nous n'avons pas encore vécues, pas encore pratiquées, mais que nous devons pratiquer parce qu'elles sont prêtes. Permets-nous, Seigneur, par la foi et par la révélation de ta parole, de pouvoir découvrir ces choses, d'y entrer et de les vivre. De les vivre nous-mêmes et de les faire vivre aux autres. Parce que c'est ça qui est important. Amen. Hein? Alors, Gédéon, il va se laisser emmener par l'ange et il va comprendre, mais il a besoin de choses concrètes. Et nous avons besoin, et mes frères et sœurs, la croix, le salut, c'est concret. La présence de Jésus dans nos vies, c'est concret. Quand on prie le Seigneur, on ne prie pas le plafond ou en espérant que ça déplace le plafond, on prie Dieu parce qu'on croit qu'il est là. Autant concret que je suis là, il est là. Amen. Et Gédéon va aller vers des choses concrètes. Il va d'abord vouloir offrir, vous relirez hein, le chapitre 7, 6 et 7. Il va vouloir offrir une offrande. Il va préparer cette offrande comme un repas. Hein? Vous relirez hein? Un repas. C'est, je vais vous le lire. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Lui, il prépare ça comme un repas et l'ange va prendre ça comme une offrande, comme un sacrifice. Voilà. Et il va transformer ça en sacrifice. Il va consumer ce sacrifice par le feu et le feu nous parle du jugement. Le feu nous parle de la purification, le feu nous parle aussi de par le jugement et la purification du fait que Dieu a agréé cette offrande et ce sacrifice. Tout est consumé par le feu et quand ça arrive, Gédéon va dire cette phrase extraordinaire, Gédéon voyant que l'ange de l'Éternel était parti, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Et c'est exactement ce qui s'est passé à la croix. Le sacrifice qui a été présenté à la croix, c'est celui de la personne parfaite de Jésus-Christ qui a été jugé, condamné à notre place et par le sang duquel nous avons été purifiés. Et ce sang nous a rendu, je vais dire agréable, mais le mot c'est propice aux yeux de Dieu. Et maintenant nous pouvons dire, je ne crains rien parce que je ne mourrai pas. Le sacrifice parfait a été accompli. Et Gédéon avait besoin de cette assurance pour aller plus loin. Nous avons besoin pour aller plus loin dans le combat et gagner le combat, d'avoir d'abord cette assurance que par le sang de Jésus, nous avons été purifiés et nous avons été rendus propices aux yeux de Dieu. C'est la première étape. La deuxième étape, l'ange lui dit « Tu vas maintenant purifier ta maison. » Il y a ce que Christ a fait pour nous et il y a ce que nous devons faire de notre part. « Tu vas dans la maison de ton père, tu fais tomber l'idole, tu installes l'autel et dessus, sur cet autel tu brûles l'idole. » Voilà. Et Gédéon l'a fait. Parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin sans purifier sa maison. Il faut commencer par sa maison, il faut commencer par notre propre vie, il faut que notre propre vie soit pure, purifiée, lavée de toute idole, voilà, et c'est ce que Gédéon a fait. Mais, voyez-vous, cette action-là a un prix, il a eu des ennemis. Et quand on fait la volonté de Dieu, on n'a pas toujours que des amis. Le diable devient notre ennemi, notre adversaire. Les gens du monde, parfois, deviennent, pas toujours, mais des adversaires aussi. Et quand on fait et qu'on fait la volonté de Dieu et qu'on conforme notre vie à la parole de Dieu, quand on la sanctifie par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu, alors on s'aperçoit qu'on marche à contresens, à contre-courant. Ça devient compliqué, ça devient difficile, mais c'est là le vrai chemin. Que le Seigneur nous aide à vivre ces choses. Et à partir de ce moment-là, la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel a revêtu Gédéon. Vous voyez ? Une fois que le jugement et la purification a été faite, que sa maison a été purifiée, l'Esprit peut venir. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Quand nous sommes nés de nouveau, que tout est en règle, eh bien l'Esprit de Dieu nous fait naître de nouveau, mais après il veut nous baptiser de son Esprit pour nous rendre capables d'aller jusqu'au bout et de gagner le combat. Et il nous est dit que l'Esprit a revêtu Gédéon, et dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de baptême du Saint-Esprit. D'ailleurs, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est nommé, c'est bien l'Esprit de Dieu qui revêtait pour des moments, pour des actions particulières, des hommes, pour un temps, pour une action, pour une œuvre, pour une parole. Voilà. Et ces hommes étaient en capacité, parce que c'est ce que le Saint-Esprit veut faire avec chacun de nous, nous rendre capables d'entrer dans la sphère spirituelle, dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu, et d'apporter ce qui vient d'en haut, voilà, et de vivre ce qui vient d'en haut. Alors Gédéon a été revêtu, mais il va encore demander un signe, voilà. Il va demander, vous savez, le signe de la toison. Je ne relis pas tout, vous connaissez les textes, et puis je vous engage à le relire chez vous, les relire chez vous. La toison. Seigneur, que la toison soit remplie de la rosée et la terre soit sèche. Le Seigneur a fait. Alors, Gédéon ne doutait pas de Dieu, il doutait de lui. Ne doutons jamais de Dieu. Et si nous devons douter de nous, alors approchons-nous de lui et Dieu se fera toujours une joie de nous éclairer, de nous rassurer. Amen. Et puis, Gédéon revient, Seigneur, ne te fâche pas. Que la toison reste sèche et que la terre soit remplie de la rosée. Mais le message, il est clair. Être d'abord arrosé soi-même pour arroser, être rempli pour déborder, c'est ça le message. Et on a besoin de vivre nous-mêmes dans un but de faire vivre aux autres, mais si je ne vis rien, je ne ferai rien vivre aux autres. Mais si rempli du Saint-Esprit, de la plénitude de Dieu, de la plénitude du Saint-Esprit, eh bien, comme le dira Jésus, ces fleuves d'eau vive vont jaillir. Ça peut être de chacun d'entre nous en tant qu'individu, en tant que chrétien, mais ça concerne aussi le corps de Christ, l'Église, évidemment. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu rempli de la rosée de Dieu, de la vie de Dieu. Il était rempli et sur la croix, il est venu dans un monde desséché et sur la croix, il s'est lui-même desséché pour que la rosée soit répandue, la grâce et le salut soient répandus sur cette terre. Et le but, il est toujours le même. Et nous devons demander au Seigneur de nous remplir de cette rosée afin que de nous, eh bien, ce monde qui est desséché, et combien il est desséché, puisse être aussi arrosé et rempli. Amen. Hein ? Et donc, Gédéon a prié, il a fait cette prière, prière de la foi, et le Seigneur a exaucé. Alors, je vais rentrer rapidement dans une démarche, un principe pour aller vers la victoire. Gédéon a fait tout ça, il a compris que l'Éternel était avec lui et qu'il fallait y aller. Vous savez, il y a un moment, il faut se décider. Et les principes pour que Dieu nous amène vers la victoire, le premier principe, c'est la disponibilité. Regardez au chapitre 7, verset 1er. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin. Vous savez, on a toujours dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà. Mais c'est aussi valable dans le domaine spirituel. Il faut se lever tôt pour rencontrer le Seigneur. Il faut se lever tôt pour être dans l'intimité avec lui. Il faut chercher sa présence dès le matin. Amen. Et c'est lui qui nous conduira dans le combat et vers la victoire. Et il nous est dit, ils campèrent près de la source d'Arod. Voilà, près de la source. C'est près de la source qu'il faut demeurer. Et la source pour nous, c'est Christ. Arod, ça veut dire source du tremblement, source de la peur. Alors non pas que Christ nous conduise dans la peur et dans le tremblement, mais nous devons avoir cette crainte. Paul dira, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et la source qu'est Jésus-Christ doit nous inspirer la crainte de le décevoir, d'être à côté de lui, de s'éloigner de lui. Et là où nous devons être, et là où nous serons disponibles et bien disposés, c'est près de la source. Près de la source qu'est Jésus-Christ. Amen. Hein ? Et puis, l'ange va amener Gédéon à avoir un discernement. Bon, vous connaissez l'histoire, le tri. Ils sont là. 32 000 hommes, c'est trop, dira le Seigneur. Trop nombreux. Ah bon ? Seigneur, tu vois bien qu'ils sont comme des sauterelles. Ils sont là par milliers. Les chameaux sont aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. 32 000, c'est trop ? Oui. 32 000, c'est trop. Et si je les laisse faire, ils ne donneront pas la gloire à mon nom, mais ils prendront la gloire pour eux. Nous devons veiller. En tout cas, je le prends pour moi. Même en tant que prédicateur, à ne jamais ravir la gloire de Dieu. C'est son nom qui nous amène à la victoire. Et c'est toujours son nom qui doit être glorifié. Amen. En tout et pour tout, en toute chose, en tout temps, que son nom. Et quand notre cœur, notre but est de glorifier le nom de Jésus, alors le Seigneur est avec nous. Non, 32 000, c'est trop. Tu vas dire à ceux qui ont peur, qui sont craintifs de retourner chez eux. Vous savez, il ne faut pas jeter la pierre sur ces gens qui sont craintifs. Parce que quelque part, relisez bien les textes dans Nombre chapitre 20, verset 8, c'est Moïse qui donne cette loi, que ceux qui ont peur n'aillent pas au combat, afin de ne pas affaiblir les autres. Mais je retiens là que Dieu ne fait pas de reproche. Ces gens ont peur, mais Dieu continue de les aimer. Et s'il va prendre un petit nombre pour remporter la victoire, cette victoire, elle va profiter à tout le peuple. Soyons des hommes et des femmes de Dieu forts que Dieu va utiliser. Bannissons la crainte, bannissons la peur, gagnons le combat pour que ceux qui sont dans la crainte puissent revenir et se fortifier aussi. Parce que le but de Dieu, c'est toujours de sauver. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Amen, hein ? Alors, 22 000 sont rentrés. Oui, c'est vrai que ceux qui ont peur ne peuvent pas être utilisés par le Seigneur. En tout cas, pour le temps où ils sont dans la crainte. Et ils sont dans la crainte parce que leurs yeux sont tournés vers la puissance de l'adversaire qui impressionne plutôt que d'être tournés vers les promesses de Dieu qui rassurent et qui rendent fort. Nous devons avoir nos yeux fixés sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu. Et ceux qui ont peur, c'est ceux qui voient l'ennemi trop nombreux et qui pensent qu'il faudrait être aussi nombreux que lui pour être vainqueur, voire plus. Mais ça, c'est la religion du nombre. C'est marcher par la vue. Mais la Bible nous engage, le Seigneur nous engage à marcher par la foi. Et peu importe le nombre, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Amen. Et Dieu va encore trier. Voilà, sur ceux qui restent, il ne va en rester que 300. Vous connaissez l'histoire. Ceux qui laperont l'eau comme les chiens. Ouf, déjà, quelle base d'humilité il faut avoir pour accepter ça. Mais je me souviens qu'une certaine femme dans le Nouveau Testament, cette femme syrophénicienne s'est approchée de Jésus et elle a dit « Mais les miettes que les chiens ramassent sous la table, ça me suffit, Seigneur. » Quelle humilité, mais quelle vérité et quelle foi. Quelle foi. Et ces hommes qui ne se sont pas baissés, qui ne se sont pas installés pour boire l'eau tranquillement, paisiblement, qui n'ont pas posé leurs armes pour être à l'aise, mais plutôt qui ont ramené l'eau et qui l'ont lapée comme les chiens, mais en restant en armes, parce qu'ils étaient pressés d'aller au combat et de remporter la victoire, eh bien ces hommes-là, 300 seulement, ont été utilisés par Dieu d'une manière extraordinaire. Nous avons besoin, et Dieu veut, des hommes et des femmes engagés. Engagés dans le combat, le vrai combat et le bon combat de la foi. Que le Seigneur nous aide à être de cela. Amen. Hein ? Et ça m'amène à constater quelque chose quand même d'important, c'est que la bataille, elle se livre d'abord à l'intérieur. Vous voyez, il a fallu que Dieu fasse le tri et qu'ils se servent de ceux qui étaient prêts et qui avaient déjà remporté dans leur cœur, dans leur vie, la bataille sur eux-mêmes et qui étaient prêts à aller jusqu'au bout, s'appuyant sur la force que Dieu leur donnait parce qu'il était avec eux. Et ça, cette bataille, ça s'appelle la consécration. La consécration, c'est de dire au Seigneur, voilà, toute ma vie, elle est là. Je veux rien garder pour moi. Mes aises, ma liberté, je ne trouve de liberté qu'en toi, Seigneur. Amen. Et quand on est capable de dire ça, de renoncer à certaines choses, et même à tout, pour suivre Christ, pour servir Christ, alors le Seigneur, il nous prend et il nous utilise. Et il le fera toujours. La victoire, elle se remporte d'abord au pied de la croix, en nous-mêmes, avant d'aller gagner les combats. Et qu'est-ce que va faire l'ange ? Eh bien, il va emmener, pour rassurer encore Gédéon, il va lui dire, ben, descends dans le camp et écoute. Il va l'amener à voir et à croire. Écoute, entends et regarde. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Gédéon, il descend dans le camp, dans l'avant-garde du camp de l'adversaire, avec son serviteur, et il entend un des adversaires, qui a fait un songe, voilà, et qui voit un pain d'orge, un gâteau d'orge qui roule, et qui heurte la tente et qui l'a fait tomber. Et dans ce camp d'adversaires, il y a la prophétie, eh bien, c'est Gédéon qui vient et qui va nous détruire. Quelque part, l'adversaire, lui, il sait qu'il est déjà vaincu. C'est le peuple qui pensait qu'il fallait être plus nombreux pour le vaincre. Mais Dieu montre à Gédéon que l'adversaire lui-même sait déjà qu'il est vaincu. Il en a la vision, il en a la conscience. Et ce n'est pas le nombre qui fera sa force, c'est que Dieu était dans l'autre camp. Voilà. Et la Bible nous apprend que Dieu a déjà mis dans le cœur de notre adversaire la vision de sa défaite. Ça s'appelle la croix. Frères et sœurs, n'oubliez pas qu'à la croix, il y avait du monde, mais le diable était témoin de ces choses. Et là, il a vu sa défaite. Là, il a vu sa défaite. Il sait qu'il est vaincu. Alors la Bible nous dit qu'il est comme un lion qui rugit, qui rôde, qui cherche, qui tourne en rond. Mais il est comme un chien attaché à une chaîne et il ne peut pas aller plus loin que ce que Dieu lui accorde. Et quand Dieu est avec nous, je le répète, même lui ne peut pas être contre nous. Amen. Il y a ce chant, vous le connaissez, qui dit « Quand je prie et que je loue, quand tu pries et que tu loues, l'enfer tremble. » Oui, oui, oui. Nous, parfois, on pense que le diable est tellement fort qu'il sera plus fort que nous, mais non, c'est Christ qui a vaincu. Il a vaincu à la croix, sa défaite à l'adversaire est déjà actée, tout est accompli, et ça en fait partie. Et maintenant, parce que Dieu est avec moi, je serai plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Alors, ne marchons pas par la vue, marchons par la foi, attachons-nous à Christ. Vous savez, on ne l'a pas vu, le Seigneur. Il y a des fois des chrétiens qui me disent « J'aurais voulu vivre au temps de Jésus, le voir, le toucher, l'entendre. » Et je dis, mais il est là plus que jamais et plus réel que jamais. Et même Jésus a dit « Vous serez heureux, vous qui ne me voyez pas. » Voilà. Parce que on doit vivre de révélation. Et plus le Seigneur nous révèle par son esprit et sa parole qui il est, et plus nous le connaîtrons, et plus notre force et notre foi sera grande. Je l'ai entendu tout à l'heure, la foi, elle ne vient que de la parole de Dieu, et de rien d'autre. La foi, on ne peut pas la fabriquer, la foi, on ne peut pas l'inculquer. Et la foi, je vais même dire quelque chose peut-être qui vous choque, bien sûr c'est un don de Dieu, mais il ne nous donne pas la foi avec un coup de baguette magique, ça y est, tu as la foi, c'est bon. Il nous la donne à travers sa parole. Et cette foi, elle doit être entretenue, nourrie, renouvelée, fortifiée, augmentée. Amen. Par sa parole. Soyons des hommes et des femmes de la parole et de l'esprit qui la révèle. Amen. Alors, il y a des principes pour la victoire qu'on trouve là. Ils sont prêts au combat, ils vont y aller. Et le premier principe, c'est, Gédéon va dire au verset 15, « Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Mes frères et sœurs, d'abord, il faut être debout pour gagner. Il faut se lever, et on l'a lu de bon matin. Et puis il nous est dit, il divisa en trois corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Oh là là. Et les épées, et les arcs, et les arbalètes, elles sont où? Et voyez ce qu'il dit, c'est le premier principe. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Le premier principe pour aller jusqu'à la victoire, c'est de regarder Jésus et de faire comme lui. L'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Dieu. Et il dira, soyez les imitateurs de Dieu. Mais nous, on voudrait imiter le Seigneur dans ses miracles, dans ses exploits. Mais la parole de Dieu nous enseigne d'abord à l'imiter dans son amour, à avoir les sentiments qui étaient en Christ, et à imiter Christ dans cette personnalité de l'amour qu'il a et qu'il est. Dieu est amour et nous devons imiter Dieu d'abord dans son amour. Amen. Et le Seigneur sera celui qui sera toujours à nos côtés. Faites comme moi. Plus je lis la parole de Dieu, plus je découvre Jésus et plus j'aspire à être comme lui. À tel point que c'est là la volonté de Dieu, que nous soyons semblables à son Fils. Voilà le but que Dieu veut atteindre avec chacun d'entre nous. Moi, quand je lis ça, je réalise que c'est de la part de Dieu un acte d'amour incommensurable. Moi qui étais un pécheur, rebelle, loin de Dieu, misérable, non seulement il a donné sa vie pour me sauver, mais il me transforme chaque jour pour que je ressemble et que je devienne à l'image de son Fils, de ce qu'il a de plus précieux, de son bien-aimé. Amen. Et un jour, quand on sera dans le ciel, on sera semblable à lui. Si c'est votre but, rien ni personne ne pourra vous empêcher d'atteindre ce but. Amen. Hein? Et c'est d'abord le premier point d'imiter Christ. Faites comme moi. Faites comme moi. Voilà. Et le deuxième point, verset 18. Quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Paul dira, si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat? La trompette, elle doit avoir un son clair. Quand on entend la trompette, on doit se préparer, on sait. Il y a plusieurs trompettes, je ne vais pas revenir là-dessus dans la parole de Dieu, mais là, c'est la trompette qui annonce le combat et qui motive pour aller au combat. Mais il faut qu'elle ait un son clair. Et le chrétien, le témoignage des chrétiens que nous sommes, doit être clair et distinct. On l'a chanté. C'est Jésus-Christ que nous devons proclamer. Pour l'Éternel et pour Gédéon. Pour l'Éternel et pour Jésus-Christ. Pour lui et lui seul. Mort, crucifié et ressuscité. Glorieusement élevé, assis à la droite du Père et qui revient bientôt nous chercher. Voilà le message, il n'y en a pas d'autre. Et ce son, il doit être clair, limpide, pour que chacun, chaque être humain puisse se préparer au combat et à la victoire. C'est Paul qui affirme ces choses et il dira « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire » par notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons la victoire, il n'y en a pas d'autre que Jésus-Christ. C'est pour ça que mes yeux doivent être fixés sur lui. Mon attention, ma vie doit soupirer après lui. Je dois m'attacher à lui, m'attacher à la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Hein? Et le corps, eh bien, quand il sonne, et j'espère, je souhaite que ce corps résonne toujours dans nos cœurs, doit nous permettre de nous lever, pardon, et de mener le combat, le bon combat de la foi. 300 hommes, c'est bien peu, mais le coup de trompette est donné, maintenant il faut y aller. Il faut y aller. 300 hommes, ils sont dans une position stratégique. Le Seigneur les a placés, on verra, ils sont à leur place, ils sont prêts, ils ont ce qu'il faut, ils ont ce qu'il faut, et maintenant ils ont entendu la trompette, c'est le moment, il faut y aller, il faut y aller. Paul dira aux Éphésiens, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il ne faut pas se tromper de combat, jamais. Et on a besoin de toute la révélation du Saint-Esprit, de sa parole. Pourquoi? Parce que c'est un combat à mort. Hein. L'enjeu, c'est la vie éternelle ou la mort éternelle. Et on ne doit pas se tromper, on ne se bat jamais contre des hommes, des femmes, quels qu'ils soient. On se bat toujours contre celui qui est derrière, contre un adversaire qui est redoutable, mais je ne veux pas l'oublier, je veux le répéter ce matin, qui est déjà vaincu. Nous avons en Dieu toutes les armes nécessaires, toutes les armes. Et les armes que Dieu nous donne, elles sont non seulement nécessaires, utiles, mais elles sont, efficaces. Efficaces. Amen. À nous de nous en revêtir. Voilà. Et plusieurs ont fait peut-être l'armée, voire plus. Il me semble que l'armée, on passe le plus clair de notre temps à nous préparer au combat. Parce que ce n'est pas sur le terrain, sur le champ de bataille qu'on se prépare. Ce n'est pas sur le champ de bataille qu'on s'équipe, qu'on s'habille. On va sur le champ de bataille préparé, équipé, parce qu'on s'est préparé avant. Et on a besoin de se préparer. Je ne parle pas du salut, parce que pour le salut, il faut être prêt. Il ne faut pas se préparer, il faut être prêt. Parce que Jésus peut revenir maintenant, je peux quitter la terre maintenant, il faut que je sois prêt. Mais pour les combats qui viennent, eh bien, on a besoin d'être prêt, de se préparer et de se revêtir de toutes les armes. Et l'arme défensive, par excellence, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et dans Éphésiens 6, Paul terminera aussi par la prière. Priez pour moi, priez pour nous. La prière, priez en tout temps par l'Esprit. La prière de l'Esprit. Demandons au Seigneur que nos prières soient inspirées. Amen. Et nos prières, elles le seront quand notre vie sera imbibée de la parole de Dieu. Alors le Saint-Esprit prendra cette parole, la fera monter vers Dieu et nous prierons toujours selon la volonté de Dieu. On ne sera jamais à côté. Et quand on prie de cette manière, on est sûr d'être exaucé. Alléluia, hein ? Priez en tout temps, dans l'Esprit, avec une entière persévérance. Nourri de la parole, persévérant dans la prière, voilà un principe pour aller dans la victoire. Et l'apôtre Jean rajoutera quelque chose, il dira « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Voilà, la parole, la prière par l'Esprit et la foi. Et puis, ils ont leurs cruches, et le but c'est de briser les cruches pour sortir les flambeaux qui étaient cachés dedans. L'apôtre Paul compare les chrétiens, non pas à des cruches, mais à des vases de terre. Voilà. Avant d'être des vases d'honneur, nous sommes des vases de terre. Et c'est à partir du moment où on est capable de briser ce vase de terre, que la lumière peut jaillir, pas autrement. Tant que nous résistons, tant que notre cœur ne se brise pas devant le Seigneur, tant que notre volonté ne se brise pas devant le Seigneur, eh bien la lumière que Dieu a mise en nous ne peut pas éclairer, ne peut pas rejaillir. Mais c'est à partir du moment où nous venons devant le Seigneur avec un cœur brisé, et c'est tellement vrai que, parce que je m'appuie quand même sur la parole de Dieu, hein, dans le psaume 34, il nous est dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Ouais. Pas de ceux qui gesticulent, qui vont dans tous les sens, de ceux qui ont le cœur brisé. Mes frères et sœurs, le cœur brisé devant le Seigneur, ce n'est pas de venir vers lui et de toujours gémir, de toujours pleurer, de toujours se plaindre. Parce que parfois, on a des bien-aimés qui alors ce n'est pas négatif ce que je veux dire, mais qui gémissent toujours devant le Seigneur et on a l'impression qu'il n'y a jamais de solution. Mais quand on vient devant le Seigneur, il y a toujours une solution. Amen. Non, le cœur brisé devant le Seigneur, c'est briser notre volonté, briser nos désirs, briser nos plans et les conformer, les soumettre à la volonté de Dieu, au désir de Dieu et à sa parole. C'est ça, avoir le cœur brisé. Et à partir du moment où on vient devant lui avec un cœur brisé, alors la lumière, elle peut jaillir. Et quand les cruches sont brisées, eh bien, je vais dire qu'entre notre moi est crucifié, alors Christ peut resplendir en nous et être vu. Je suis la lumière du monde, a dit Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Mais nous sommes réalistes quand même. Nous ne pouvons être la lumière du monde que si Christ brille en nous et que si nous lui permettons de briller en nous. Vous savez, quand la Bible dit « vous êtes la lumière du monde », elle ne dit pas « vous êtes des lumières ». Nous sommes la lumière qui éclaire non pas nous-mêmes, mais qui éclaire Christ. Nous sommes des projecteurs qui projettent la lumière sur Christ. Et quand les hommes du monde nous voient briller, ce n'est pas nous qu'ils voient, c'est Christ qu'ils doivent voir. C'est tout un programme, hein ? C'est tout un programme. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, dira Paul aux Philippiens. Tout chrétien né de l'Esprit, né de nouveau, est fait pour être allumé, pour être vu, pour briller et pour éclairer le Seigneur Jésus. Paul dira aux Éphésiens, « Autrefois vous étiez ténèbres, oui, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » La question qu'on peut se poser, moi que je me pose chaque matin, est-ce que je suis vraiment une lumière qui brille et qui éclaire Jésus-Christ ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand je vais aller dehors, je vais sortir, je vais faire ma vie, on va pouvoir voir Christ en moi et à travers moi ? À chacun de répondre à cette question. Mais voyez, les torches, les flambeaux, pour brûler, ils doivent être enrobés, voilà, d'une résine accumulée, et c'est cette résine qui va brûler. Notre vie, pour qu'elle brille, pour qu'elle brûle, pour qu'elle éclaire, elle doit être faite d'accumulation de la parole de Dieu, Et plus nous accumulerons la parole de Dieu dans notre vie, et plus la lumière, c'est la parole de Dieu qui est la lumière, hein, et qui brille. C'est pas moi, c'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je dis. C'est la parole qui est en moi et que Dieu éclaire et révèle. La parole de Dieu est une lumière et la Bible dit que c'est la révélation de cette parole qui éclaire. La parole et l'esprit doivent être en nous, en abondance, en abondance. Dans Hébreux, il nous est dit « Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. » Nous avons besoin, si nous en sommes encore au lait, de passer à de la nourriture spirituelle et de nous nourrir tous les jours davantage de nourriture plus consistante. Amen. Parce que c'est à ce moment-là que nous pourrons être en mesure de discerner le bien et le mal. Mes frères et sœurs, je suis incapable, de par ma nature, de discerner le bien et le mal. Et je serais même, je dis moi, mais l'être charnel, qui n'est pas éclairé par la parole et par l'Esprit de Dieu, il aurait même tendance à confondre et inverser. Et c'est ce qu'on voit dans le monde. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Et tous ceux qui essayent de faire le bien sont rejetés parce que le bien est devenu le mal et c'est le mal qu'il faut pratiquer pour être bien. Vous m'avez suivi? Oui, il n'y a que la parole de Dieu qui pourra nous éclairer. Et plus nous nourrissons notre vie de la parole de Dieu, plus nous serons amenés à discerner le bien et le mal. Je ne parle pas du mal grossier et du bien grossier. Je parle des subtilités que l'adversaire peut glisser dans nos vies ou au milieu de nous. Il est le malin. Il est subtil. La Bible dit qu'il essaiera de séduire les élus s'il était possible, même les élus s'il était possible. Oui, ne nous laissons pas séduire. Laissons-nous éclairer par la parole de Dieu. Et puis, une fois qu'on a brisé la cruche, qu'on a sorti le flambeau, qu'on l'a allumé, il faut proclamer. Proclamer avec foi, au verset 20, les trois corps sonnèrent de la trompette, brisèrent les cruches, ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils éclairent et ils proclament la victoire. Oui. Là, c'est plus pour eux, ils appellent plus au combat, ils proclament déjà la victoire. Et la victoire, c'est la proclamation de l'Évangile, de la parole de Dieu. Et Paul dira quelque chose d'important. Vous connaissez ce verset, Romains chapitre 1, verset 16. « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Souvenez-vous, Paul s'adresse aux chrétiens de Rome, dans un temps où Rome était, comment dire, alors même par rapport à ce temps, au summum de l'impureté, de l'impudicité, de tout ce qu'on peut imaginer et même qu'on ne peut pas imaginer. Et les Romains n'avaient pas honte de cet état de péché dans lequel ils vivaient jusqu'au plus haut sommet de l'État. Ils baignaient dans le péché et ils n'en avaient pas honte. Et Paul va leur dire, mais c'est pas à nous d'avoir honte. C'est à eux d'avoir honte. Nous, on n'a pas honte de l'Évangile. C'est une puissance pour celui qui croit. Puissance de Dieu. Et nous devons, par la foi, proclamer. Paul dira, « Je sais en qui j'ai cru. » Point barre. Et l'apôtre Paul, on pouvait lui dire ce qu'on voulait. Il était enraciné à tel point qu'il va dire, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Amen. « Je sais en qui j'ai cru. » Et il dira, malheur à moi si je ne prêche pas, si je n'annonce pas l'Évangile. Son malheur, c'était de ne plus pouvoir prêcher l'Évangile. Et jusqu'au dernier moment de sa vie, il a annoncé l'Évangile, puissance pour celui qui croit, puissance de Dieu. Osons, c'est pas à nous d'avoir honte. Je dis peut-être pour certains, peut-être pour les plus jeunes parmi nous, des fois... dans le contexte de la vie, c'est difficile de dire qu'on est croyant, qu'on est chrétien, qu'on appartient à Jésus-Christ, qu'il est notre sauveur. C'est difficile, mais n'ayons pas honte, parce que c'est une puissance, et parfois, cette puissance, elle brise les cœurs les plus difficiles, les plus durs, comme elle l'a fait pour certains d'entre nous. Hein. Voilà. Et ce que Dieu a fait pour nous, il le fait pour les autres. Et j'en arrive au terme. Verset 21, il nous est dit, « Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. » Alors que dire là-dessus ? Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Ils n'ont pas bougé et c'est le camp de l'adversaire qui s'est mis à courir dans tous les sens, qui était dans la confusion. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas le peuple de Dieu qui doit être dans la confusion. Ce n'est pas le peuple de Dieu qui doit s'agiter. Le peuple de Dieu, le chrétien, l'enfant de Dieu, il est fort, il est stable, il est debout, il est dans la justice, dans la vérité, il ne tremble pas, c'est l'adversaire qui tremble, c'est l'adversaire qui est confus, c'est lui qui fait une œuvre qui le trompe lui-même, dit la Bible, et eux, ils sont restés à leur place. Ils n'ont pas tremblé, ils avaient confiance dans ce que Gédéon leur a dit, parce que Gédéon avait reçu de Dieu ce qu'il leur a fait pratiquer et vivre. Et nous devons ne pas craindre l'adversaire. Je vais rapidement, alors, ce n'est pas le propos, mais l'apôtre Paul parle de la place de chacun dans l'Église, par exemple. Il parle de la place des femmes dans l'Église. Il parle de la place des hommes qui doivent prendre leur place. Il parle de la place des jeunes dans l'Église, qui ont aussi leur place, qui ont la fougue, qui ont de l'ardeur, qui manquent d'expérience et qui doivent avoir aussi la sagesse d'écouter. Et il parle de la place des plus anciens qui, eux, eh bien, sont plus posés, mais avec cette expérience de la parole de Dieu, qui doivent être des modèles, qui doivent être des modèles pour ceux qui sont autour, qui sont plus jeunes. Paul dira à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse, et nous ne devons pas mépriser la jeunesse. Si le Seigneur a donné quelque chose à un plus jeune, bien on ne doit pas mépriser cela, mais on doit plutôt accompagner et discerner. Mais il dira quand même à Timothée, sois un modèle. Et il lui dira dans un autre verset, que tes progrès soient évidents. Relisez bien, pour tous et pas de tous. Parce que s'il avait dit que tes progrès soient évidents de tous, ça veut dire que tout le monde te voit progresser et quelque part l'orgueil peut s'installer dans ton cœur. Mais toi progresse et que ces progrès soient au bénéfice pour tous. Nous devons les uns et les autres progresser pour que nos frères et sœurs, pour que l'Église en bénéficie, évidemment. Que le Seigneur nous aide les uns et les autres. Amen. Hein. Et Paul dira, alors on l'a lu, que personne ne méprise ta jeunesse, mais quand on regarde bien, il dit à Timothée, ne te rends pas toi-même méprisable non plus. C'est-à-dire, sois irrépréhensible. Voilà. Et sois donc un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Et ce que Paul dit à Timothée, le Seigneur nous le dit à chacun d'entre nous. Voilà. Mais, je reviens au peuple, et je vais terminer avec ça. Regardez la position, la place du peuple. Au verset premier, on l'a lu, il est près de la source. C'est la meilleure place, au plus près de Jésus, à tel point qu'on doit être caché en lui. Il n'y a pas plus près, hein ? Voilà. Et au verset 8, il nous est dit du chapitre 7, on prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. Malgré tout, la position du peuple de Dieu, elle était au-dessus de l'adversaire. Et la parole de Dieu nous dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et dans le tout accompli, c'est déjà fait. Et Paul dira aux Éphésiens, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il n'a pas dit, il nous fera asseoir. Il ne parle pas du temps où Jésus reviendra nous chercher, nous serons avec lui, parce que là, les ennemis, il n'y en aura plus, c'est fini tout ça. Ce sera fini. Non, non, aujourd'hui, à partir du moment où Christ est en moi, je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Et il n'y a pas de position plus élevée que d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. Je dis élevé parce que notre adversaire est devenu notre marchepied. Voilà la position de l'enfant de Dieu en Christ. Voilà la position de l'Église, à tel point que Jésus dira, c'est moi qui bâtirai mon Église, et le séjour... Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Ça m'arrive, hein. Mais vous connaissez les textes. Amen. Mais c'est pas, alors, vous savez, on les cite par cœur quand on y arrive. Et je dis toujours, ça ne doit pas être des formules, ça. C'est la vérité. C'est la réalité. C'est Jésus qui bâtit son Église. Elle traverse les siècles. Et jusqu'au rendez-vous final, jusqu'au jour du Seigneur, le Seigneur en prendra soin, toujours. Veillons à demeurer assis avec lui dans les lieux célestes. Elle est belle, l'Église de Jésus-Christ. Elle est sa fiancée, sa bien-aimée, la prunelle de ses yeux. Qui ne prendrait pas soin de ses yeux, hein ? On met des lunettes, et dès que ça ne va pas, on retourne. Hein ? Le Seigneur aime son Église et il veut la bénir et il la gardera toujours jusqu'au bout. Et le dernier point, c'est vraiment le dernier, au verset 22, les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit, voilà, vers Bethshitta, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Taba. C'est l'Éternel qui fit tourner l'épée les uns contre les autres. Laissons le Seigneur agir. Souvent le Seigneur dira à son peuple, reste tranquille, c'est moi qui combattra pour toi. Reste dans la paix, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Hein? Amen. Et on a besoin de laisser le Seigneur agir, nous tenir près de lui, à la source, cachés en lui. Cachés en lui, on ne craint rien. Il saura toujours agir avec puissance. Et quel miracle! Ils ont brisé les cruches, ils ont sorti les flambeaux, ils ont sonné de la trompette et ils sont restés là. Et Dieu a agi. Amen. Que le Seigneur nous aide à vivre ces choses. Mais avant tout ça, vous savez, on y voit, et au-dessus de tout ça, on y voit l'amour de Dieu pour son peuple. Combien de fois rebelle, mais combien de fois il a crié, et combien de fois le Seigneur, l'Éternel, l'a secouru. Et jusqu'au jour où, voyant ce monde perdu, Dieu a envoyé son propre Fils. Voilà, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et le but de Dieu, c'est que personne ne se perde, qu'aucun ne se perde, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible dit qu'il n'est pas venu pour juger, ni pour condamner, mais pour sauver le monde. Nous sommes encore dans le temps de la grâce, où Dieu veut agir pour le salut. Amen. Viendra un temps où il faudra qu'il vienne juger, séparer, condamner et rejeter, mais ce temps-là n'est pas encore arrivé. Nous sommes encore dans le temps de la grâce, et le cœur de Dieu, le cœur du peuple de Dieu, doit refléter le cœur de Dieu, de proclamer le salut pour quiconque croit, afin que quiconque croit soit sauvé. Amen. Que le Seigneur nous